un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 12 juin 2024 et je vous présente une chronique du groupe Fred Zeller depuis les studios de Radio Libre en Périgord. Alors, je voudrais aujourd'hui, nous sommes dans une situation un petit peu particulière après, j'allais dire, le double séisme qui s'est produit hier, et principalement le second séisme, qui nous met dans une situation tout à fait nouvelle. Alors, je ne vais pas intervenir pour commenter cette situation aujourd'hui. La libre pensée n'est pas un parti politique, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à la chose politique et qu'elle n'a pas ses options, ses propositions, ses positionnements, en particulier par rapport à la question institutionnelle. Et nous avons souvent répété à ce micro combien, de ce point de vue, les institutions de la Ve République étaient nocives, et nocives en particulier sur la question de la laïcité. On le voit avec à la naissance même de la Ve République, l'adoption de la loi Debré de financement de l'école privée par des fonds publics qui coûte, je le rappelle, 12 milliards par an. Et on le voit sous le macronisme aujourd'hui pourrissant et défait, avec différentes lois, et en particulier la loi séparatisme, qui est un affront direct donc contre la laïcité. Alors, je vais aujourd'hui aborder d'autres sujets. Nous allons avoir le temps de la réflexion. Nous allons d'ailleurs observer, parce que, comme je l'indiquais, nous ne sommes pas un parti politique prenant place dans les dispositifs, les discussions, les négociations qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Donc, bien évidemment, nous avons notre analyse et nous verrons la manière selon laquelle nous nous exprimerons, peut-être d'ailleurs dès lundi prochain. Et je vais évoquer différents sujets, à commencer par le sujet qui concerne l'aide active à mourir, puisqu'il y a un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Alors, il faut bien évidemment aujourd'hui préciser que cette discussion est stoppée, puisque hier soir, à l'instant même où le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, les députés n'étaient plus députés. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus de locaux parlementaires, qu'ils n'ont plus d'assistants parlementaires. Leurs assistants se retrouvent au chômage. Et ils se retrouvent donc dans une situation où le pouvoir est suspendu uniquement autour du président, c'est-à-dire une sorte d'article 16 qui ne dit pas son nom, jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. Alors, quelle sera-t-elle? Comment les travaux suspendus, interrompus hier soir, vont-ils reprendre? Ça, nous le verrons en temps voulu. Nous analyserons ces choses-là. Et donc, en particulier, la discussion sur le projet de loi de l'aide active à mourir est aujourd'hui donc complètement interrompue. Et la Libre Pensée, le groupe Fred Zeller, qui entretient d'excellentes relations avec l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et qui soutient complètement les travaux de cette association pour obtenir une loi de liberté, a participé d'ailleurs à différentes réunions, à la constitution donc du front avec la MGEN et toute une série d'associations qui s'est créée récemment donc pour obtenir une loi de liberté. Et on se rend compte que dans cette situation, certains ont des réserves. Alors bien évidemment, on comprend les milieux qui, d'un point de vue, à partir de leur point de vue dogmatique, se battent contre toute avancée dans le domaine de l'aide active à mourir, par idéologie, sur la base de questions de positionnement religieux, ils refusent toute évolution de la loi. Pour notre part, nous pensons que la religion, les religions, d'une façon générale, et vu sa place en France, la religion catholique, n'ont pas à imposer leur point de vue à la société, et que ce qui compte, c'est le développement de liberté, après, à chaque citoyen, selon ses convictions personnelles, d'user ou pas des droits, des libertés qui sont conquises, parce que ce sont toujours des conquêtes qui aboutissent à obtenir des droits et des libertés. Alors, dans ce concert, des positionnements curieux apparaissent, y compris à gauche, puisque on semblait penser que côté à gauche, il y avait une sorte d'unanimité pour l'évolution de la loi. Donc, je vais vous lire un petit billet qui est publié sur Mediapart. L'aide active à mourir et les cathos de gauche, mais surtout cathos. Il est indéniable que la question du vote d'une loi qui permet, en encadrant légalement et réglementairement le suicide assisté, que l'on appelle l'aide active à mourir, traverse tous les courants politiques, de droite comme de gauche. Il est clair que toutes les religions monothéistes ont arc-bouté contre vents et marées et voient leur point de vue massivement rejeté par la société. Ils n'y peuvent rien, mais elles essaient quand même d'empêcher l'avènement de cette ultime liberté démocratique, celle de choisir sa fin de vie en toute conscience. On ne choisit ni de naître, ni de comment on vit. Ce sont les conditions sociales qui le décident. La marge de manœuvre pour l'individu est très étroite pour conduire sa vie selon sa propre volonté. En conséquence, le droit de choisir sa fin de vie doit être un droit imprescriptible. Aucun directeur de conscience, que cela soit un clergé religieux, familial ou médical, ne peut décider à votre place. C'est la prérogative de chaque individu qui doit primer contre toute ingérence de celles et ceux qui veulent décider à la place des autres de leurs propres affaires. C'est la question du respect pur et simple de la liberté de conscience. C'est pourquoi cette question est véritablement une question laïque. On a droit à tous les arguments farfelus de la réaction sous toutes ses formes. Ainsi, la dernière ligne du front la débâcle est de dire, à propos des directives anticipées, « Oui, mais la personne aurait pu changer d'avis entre le moment où elle les a rédigées et sa fin de vie, où elle n'avait peut-être plus toute sa lucidité. En conséquence de quoi, ce n'est pas la volonté de la personne qui est prise en compte, mais une autre extérieure à sa décision. » Cela rappelle fâcheusement l'assaut donné au chevet des incroyants sur leur lit de mort par le clergé, en vue d'obtenir une conversion de dernière minute, moyennant quelques dons et legs substantiels pour des obsèques religieuses dont le mourant ne voulait pas. C'était le pari de Pascal. Si le paradis existe, vous rentabilisez votre mise de fonds. S'il n'existe pas, vous ne serez pas là pour vous en plaindre. Le guichet des réclamations pour cela n'existe pas non plus. C'est le premier placement à risque en quelque sorte. Là aussi, on voit que la question de la laïcité n'est pas loin. Les réactionnaires, cléricaux ou non, ne voient pas la profonde stupidité à émettre un tel raisonnement. S'ils devaient prendre force de loi, alors la conséquence immédiate serait qu'il faudrait changer de fond en comble les dispositions légales et réglementaires sur l'héritage, les testaments et les legs. Si on admet que la volonté de quelqu'un, exprimée par un écrit daté, signé et dûment enregistré, n'est pas valable ad vitam, alors tout le droit sur les héritages et les testaments doit être changé. Il ne saurait y avoir deux principes différents selon que ce soit un testament ou une directive anticipée de fin de vie. C'est pourquoi le respect intangible des directives anticipées est essentiel à obtenir. On sait que le fond du débat est la question éminemment philosophique. L'individu est-il libre ou lui est-il interdit de remettre en cause ce que Dieu a décidé ? Ou la loi des hommes, ou la loi de Dieu. C'est toujours le même débat. Comment dès lors nier que la fin de vie librement décidée est éminemment aussi une question laïque ? C'est Dieu qui donne la vie, c'est donc Dieu qui seul peut la reprendre. L'être humain n'a aucun droit de changer le cours des choses. Voilà ce que les cléricaux en tout genre voudraient nous imposer comme règle. Or, nous savons depuis Woody Allen que, citation de Woody Allen, donc, « la vie est une maladie sexuellement transmissible qui conduit inévitablement à la mort » et que Dieu n'a rien à voir avec cela. Contre cette remise en cause de la volonté des religions de régenter les corps et les consciences, personne n'a jamais rencontré Dieu, hormis Claudel, derrière une colonne dans une église. Par contre, on connaît bien ses représentants. C'est bien la loi de la Sainte Alliance des clergés qui veut s'imposer. On est donc bien dans le cléricalisme pur et donc de la laïcité qui le refuse en conséquence. Les religions, et en premier lieu l'Église catholique, donnent tous ses feux contre cette loi de liberté. On a bien sûr les déclarations communes des religions, la montée au créneau de l'extrême droite, toute chapelle confondue, la droite qui tente d'obéir à sa sainte mère l'Église, le coffre-fort a toujours fait bon ménage avec le sabre et le goupillon, et le macronisme qui ne sait plus à quel saint se vouer, et il y a toujours plusieurs demeures dans la maison du Père. Il manquait une flèche à l'arc clérical pour mettre en mouvement toutes les déterminations réactionnaires pour tenter d'empêcher l'impossible, la libre détermination des individus. Et l'Église a donc fait donner le fond du carquois. C'est ainsi que l'on peut lire dans le journal La Croix du 28 mai 2025. Mais sur cette question de vie et de mort, la gauche est plus divisée qu'il n'y paraît. Le socialiste Jérôme Guedj et le communiste Pierre Dharréville ont notamment fait entendre leurs différences, le premier en rappelant son souci de concilier deux éthiques, celle de la liberté mais aussi celle de la vulnérabilité, le second en affirmant être saisi de vertige devant une loi qui inscrit le suicide assisté et l'euthanasie au rang des gestes de la République. La Croix du 29 mai 2025 rajoute, à propos du vote sur la reconnaissance des besoins spirituels à l'approche de la mort, que monte au créneau un cateau de gauche de plus. Citation : « Je maintiens ici que la dimension spirituelle est consubstantielle de la personne humaine », a plaidé le socialiste Dominique Potier, qui soutenait un amendement identique. Citation : « Dans ces moments-là, aux frontières de la vie, priver quelqu'un de l'accès, par un clerc, un laïc, un proche ou n'importe qui, de cette traversée de l'épreuve par la spiritualité, ce serait vraiment une atteinte fondamentale aux droits humains. Je serai le dernier à nier que les besoins spirituels existent de tout temps, donc aussi à plus forte raison en fin de vie. Là n'est pas la question. Mais cela a été utilisé pour tenter de torpiller la loi en discussion. C'est donc à raison que les partisans de l'aide active à mourir ont voté contre cette disposition pour retirer un argument à la réaction. De même, ce sont les libres penseurs qui, en 1905, comme le rappelle Jean Bobéreau dans son dernier ouvrage sur la loi de séparation des Églises et de l'État, ont déposé systématiquement des demandes d'autorisation des messes pour contrecarrer l'Église et ses subsidiaires qui hurlaient à la répression contre l'interdiction des messes, ce qui n'était pas du tout l'objet de la loi de 1905. Quelques députés du PCF et du PS ne suffisant sans doute pas, c'est alors que l'URSS, c'est-à-dire l'Office universitaire de recherche socialiste, donc lié au PS, qui se veut être une autorité morale et historique, va sombrer dans l'ignominie la plus totale. Une recension d'un ouvrage d'opposant à l'aide active à mourir, préfacé par Marie-Georges Buffet, PCF, reprend sans aucune distance les fadaises sur le fait que celle-ci serait un moyen de faire des économies en assassinant les vieux. Citation : cela permettrait des économies, ce qui explique peut-être, au-delà de l'adhésion à une philosophie utilitariste et libérale, que la plupart des mutuelles y soient favorables, avec un petit rappel hypocrite sur l'opération T4 des nazis. Tout y est dans l'ignominie la plus abjecte. Décidément, leur « union de la gauche », entre guillemets, tant fantasmée et réclamée pour faire revivre un passé qui est définitivement révolu, a une drôle d'odeur de rance et de réaction. En plus qu'un secteur du PS s'en prenne de manière aussi ignoble aux mutuelles qui ont été souvent le terreau sur lequel ce même PS prospérait naguère, à quelque chose d'inimaginable et de suicidaire. Il y a vraiment quelque chose de pourri dans leur royaume du Danemark, mais comme Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre, on ne s'en étonnera guère. Mais il leur fallait toucher encore plus le fond si cela était encore possible. Ce fut la tâche dévolue à la nouvelle égérie de Cyril Hanouna sur CNews, Ségolène Royal. Celle-ci s'est crue maligne, le roi n'a jamais été son cousin, en déclarant au très réactionnaire extrême droitier Journal du Dimanche, il faut lui reconnaître qu'elle doit avoir bien faim pour se commettre ainsi avec l'extrême droite, citation, on aurait besoin d'une loi sur l'aide à vivre, en dénonçant le projet de loi qui, à juste titre, traite sur le même plan les deux volets de la fin de vie. Soins palliatifs et suicide assisté. Elle reprend toute honte bue, donc Ségolène Royal, les propos et arguments du Rassemblement national et de Zemmour. Décidément, rien ne l'arrête, et surtout pas la morale et l'éthique de gauche dont elle se réclamait naguère jusqu'à plus soif. Alors, à la question posée au début de ce billet, force est de répondre que dans le terme « catho de gauche », c'est bien le terme « catho » qui l'emporte de loin. Les masques tombent les uns après les autres, c'est une loi universelle, Lénine l'avait déjà indiqué au début du 19e siècle, il faut mieux que le clergé joue son rôle au grand jour dans l'arène démocratique plutôt que d'en être tenu à l'écart et de le jouer en cachette. La crise est si profonde que l'Église grille ses dernières cartouches, mais en vain. Avec cette loi, ou une autre, ce qui est plus probable puisque celle-ci est d'essence macroniste, même si elle est contrainte de reconnaître un certain nombre de choses positives, tant la volonté de liberté est puissante. Rien n'arrêtera la marche en avant du progrès et de la liberté. Le droit de choisir librement sa fin de vie dans la dignité, sous aucun diktat, adviendra quoi que fasse la réaction sous toutes ses formes. Pite missa est, non, la messe est loin d'être dite et nous gagnerons inéluctablement. Voilà, donc ce texte était intéressant. Alors bien évidemment, on verra dans quelles conditions ce texte sera repris ou pas par la nouvelle Assemblée nationale. Et bien évidemment, à ce micro, nous en ferons état. Alors, je voudrais vous faire part également d'un deuxième document qui concerne donc une initiative qui est prise par la mairie de Metz et qui a été relayée par la presse, hein, qui a rapporté donc le jeudi 30 mai une information qui n'est pas anodine. Et voilà ce qui se passe. Donc la presse a donné le large écho que la municipalité de Metz souhaitait lui voir accorder à l'annonce que la ville de Metz était désormais candidate à l'accueil de réfugiés palestiniens pour rester fidèle à, je cite, sa tradition humaniste. Cette annonce, qui se présente comme une marque de la traditionnelle générosité municipale, n'est en réalité là que pour masquer un choix partisan doublé d'une grave carence morale. Jusqu'à preuve du contraire, l'humanisme est la qualité de celle ou celui qui n'a rien d'humain, à qui rien d'humain n'est étranger. Or, c'est peu dire que la municipalité de Metz est loin d'avoir accordé la même attention à toutes les souffrances humaines qui endeuillent Israël et la Palestine depuis le 7 octobre. C'est peu dire qu'une partie de la souffrance endurée en Israël-Palestine lui est restée totalement étrangère. En l'occurrence, dans cette région du monde, son attention est restée limitée à une seule catégorie d'êtres humains au détriment d'une autre qu'elle a totalement ignorée. L'humanisme auquel elle se réfère est alors un humanisme non seulement partiel, mais aussi partial. De fait, la municipalité de Metz est toujours restée sourde aux appels des Palestiniens, implorant indistinctement tous les dieux que l'homme a jamais créés pour qu'enfin cesse le flot de bombes qui s'abat sur eux depuis Israël, que Israël a ouvert les portes de l'enfer sur Gaza. La municipalité de Metz a négligé les appels pourtant répétés à simplement élargir le champ de sa compassion. La municipalité de Metz n'a jamais seulement témoigné la moindre considération pour d'autres victimes que les otages israéliens. La municipalité de Metz n'a jamais fait suite à la demande d'intervention auprès de sa jumelle de Carmiel pour donner des chances à un cessez-le-feu, pour tenter d'influer sur une vengeance israélienne aveugle, pour arrêter les meurtres que le procureur de la CPI reproche aujourd'hui à Netanyahou et Galant. La municipalité de Metz, enfin, n'a jamais seulement accepté de simplement considérer une quelconque motion en faveur d'un cessez-le-feu. Autrement dit, pour la municipalité de Metz, si on s'en tient strictement à ses initiatives publiques depuis qu'Israël a commencé à ajouter un meurtre à l'autre pour aujourd'hui largement dépasser les 36 000 morts, pour la municipalité de Metz, la seule victime à considérer est Israël. Et elle parle de tradition humaniste, mais sait-elle seulement de quoi elle parle ? On s'abstiendra de commenter la partialité du choix de cette municipalité. On se contentera de rappeler qu'un des buts de la guerre à Gaza est affiché par le ministre de la Sécurité nationale, Ben-Gvir, qui dit ouvertement le 14 mai, la veille du jour où les Palestiniens commémorent l'anniversaire de la Nakba. Citation : Nous devons encourager la migration volontaire des Palestiniens. On peut, pour l'occasion, s'interroger sur cette notion de volontariat sous la menace. Lequel d'entre nous, en effet, sous les bombes qui tombent ici ou là, lequel d'entre nous, pour épargner à ses enfants le risque de l'amputation ou plus définitivement de la mort par le feu, lequel d'entre nous ne souhaiterait pas quitter cette terre d'enfer ? De là à prétendre qu'il le ferait volontairement, il y a pourtant un pas qu'il est difficile de franchir sans rougir. Non, les Palestiniens qui fuient Gaza ne fuient pas la Palestine. Ils fuient les bombes israéliennes, ce n'est pas du tout pareil, et ils ne le font certainement pas volontairement. En déplaçant plus d'un million de personnes du nord au sud de la bande de Gaza, Israël a entamé cette nouvelle Nakba. En interdisant leur retour vers le nord, Israël confirme sa volonté d'épuration ethnique. Ce dont il est question, c'est bien une nouvelle Nakba. Comme on s'abstient de commenter la partialité des choix de la municipalité de Metz depuis le 7 octobre, on s'abstient également d'établir un lien quelconque entre sa décision d'accueillir des réfugiés palestiniens et le souhait du ministre suprémaciste israélien Ben-Gvir de les voir partir. Si on préfère ne pas s'interroger sur la complicité passive de la municipalité de Metz dans le déroulement de cette nouvelle Nakba, on peut légitimement considérer qu'après n'avoir strictement rien fait pour empêcher son accomplissement, cette municipalité ne fait rien d'autre que tirer aujourd'hui honteusement profit d'une immense détresse humaine pour dorer son blason aux couleurs de l'humanisme. Elle oublie seulement, cette municipalité, que l'humanisme est indissolublement lié à l'universalité de la condition humaine. Sans cette universalité, il n'est pas d'humanisme, il n'est que des choix dictés par des intérêts partisans. clamer haut et fort qu'on accueille aujourd'hui les victimes d'un génocide qu'on n'a jamais rien fait pour empêcher, c'est de l'hypocrisie et du cynisme, peut-être, mais de l'humanisme, certainement pas. Un humaniste ne regarde pas un génocide, il le combat et il l'arrête. Voilà, donc c'était un texte qui me semblait important de vous lire. Je vous propose donc à ce moment de notre chronique d'en venir au choix musical que je vous propose. Il s'agit d'une chanson ancienne, une chanson acadienne qui est, dont le titre est « La maudite guerre » et qui est là encore, je trouve, une chanson extrêmement intéressante et tout à fait d'actualité, hein, puisque mais ça c'est un sujet que, sur lequel qu'on aborde régulièrement dans cette chronique, le risque de développement de la guerre avec le nombre de gouvernants va-t-en-guerre un petit peu dans tous les pays. C'est un enjeu considérable de la période qui s'ouvre et je trouve donc cette chanson tout à fait de circonstance, « La maudite guerre ».
J'avais une maîtresse, un jour il y avait longtemps, j'ai reçu une lettre en guerre, il faut ma pauvre petite maîtresse ne fait que brailler toute la nuit et toute la journée. En guerre je m'en vais, ma belle. Je reviens dans une semaine à tendrir nos amours. Ça vient durer sept ans. Pendant ma vingtième année, je suis rentré en Acadie. J'ai été voir ma belle, mais sa mère m'a dit, ma fille vient de se marier. J'ai été voir ma belle, qui pouvait pas me regarder, oh,
ma terre est toute ruinée à cause de la maudite, la maudite.
Voilà, donc cette chanson acadienne, hein, qui est assez ancienne, je n'ai pas la date exacte de sa création, mais bon, vous avez reconnu, ne serait-ce que par l'accent, l'origine de cette chanson, et qui est effectivement tout à fait intéressante. Hein, on peut retrouver le texte de la chanson sur Internet. Alors, je voudrais, pour conclure cette chronique, vous faire part d'une initiative de la Libre Pensée. Bon, vous savez que le groupe Fred Zeller organise régulièrement des réunions pour présenter la Libre Pensée, pour présenter les différents thèmes sur lesquels elle intervient, ou pour intervenir sur une question particulière, hein, que ce soit la loi de 1905, la question du financement public de l'école privée et d'initiatives prises donc contre la loi Debré, etc., etc. Et donc, dans cet ordre d'idées, une réunion est organisée par la Libre Pensée vendredi prochain, 14 juin à 18h, à Excideuil. Le lieu, c'est l'hôtellerie du Fin Chapon, 3 places du Château à Excideuil. Une présentation de la Libre Pensée et un débat abordant donc les thèmes de école publique, école privée, combat pour la paix, liberté d'expression. Et nous invitons bien évidemment à venir en débattre avec nous. La personne à contacter localement sur Excideuil, c'est Philippe Souleres au 07 66 34 53 68. Je répète, Philippe Souleres, pardon, 07 66 34 53 68. Et donc, nous espérons que vous viendrez nombreux. Bon, je sais bien que la zone d'écoute de RLP n'atteint peut-être pas Excideuil, mais voilà, à toutes les personnes de Périgueux qui souhaiteraient s'y rendre, bah, écoutez, vous pouvez nous contacter par l'adresse contact@lpdordogne.fr pour organiser un éventuel covoiturage. Donc, rendez-vous pour ceux qui pourront s'y rendre vendredi à Excideuil et lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi
11h30.